Eh bien, je suis heureux d'être avec vous pour cette deuxième semaine de Libération 21 qui commence. Mais peut-être un petit recap pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la semaine passée ou la semaine d'avant. En fait, il y a deux semaines, Pasteur Normand nous a apporté un message intitulé « Ancré en Jésus et en sa parole ». Normand nous rappelait que notre perception de Dieu, comment on perçoit Dieu, ça a une grande influence sur tout l'ensemble de nos vies, nos choix, nos actions, nos poursuites, les conseils qu'on va donner à quelqu'un. C'est comme un « package deal ». Hein, ça vient comme tout assemblé. C'est un peu comme les forfaits Vidéotron. T'sais, moi, je voulais juste avoir la chaîne de sport. Maintenant, il faut que j'achète toutes les autres chaînes qui coûtent une fortune. C'est un peu comme ça avec notre perception de Dieu. Elle est imbriquée dans une perception du monde dans laquelle on a une perception de qui on est dans ce monde-là et comment on pense que qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire dans ce monde-là. Maintenant, la semaine passée, dimanche passé, Pasteur Dominique nous a rappelé justement un autre message qui s'appelle « Entrer, ancré dans sa douceur », puis il nous a rappelé justement que on a tendance à vivre dans ce monde-là en bâtissant notre identité à la lumière de ce qu'on fait. On ne bâtit pas notre identité sur ce que Dieu dit de nous, et on fonde notre identité sur les actions qu'on pose. Puis ça nous amène à la performance humaine, parce qu'on voit Dieu comme un Dieu dur, exigeant, puis incapable à satisfaire. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir sa faveur. Ça a comme conséquence de nous écraser sur de lourds fardeaux que Jésus veut enlever en nous invitant à venir à lui. Dominique nous a rappelé que Jésus est celui qui a dit qu'il était doux et humble de cœur et que son joug est doux et son fardeau léger. Donc, au lieu de laisser nos actions dicter qui nous sommes, on fait bien d'enraciner ce que nous sommes et ce que nous faisons dans la personne et les actions de Dieu. Dominique disait, « Laisse Dieu te dire qui tu es et ce que tu fais. Ancre-toi dans la douceur de Jésus qui s'est humilié à la croix pour te libérer de tes fardeaux. » Mais ce matin, on continue dans cette même série d'ancrage, hein, ancré en Jésus, ancré dans sa douceur. Et ce matin, chacune de ces ancrages-là vise à défaire ou corriger des fausses perceptions qu'on peut avoir de Dieu. Et ce matin, on a justement de nouvelles perceptions qu'on veut attaquer par le message que je vais apporter. Dieu est indifférent à notre misère. C'est une des fausses perceptions qu'on veut adresser ce matin. Et la deuxième, Dieu est cruel et contribue à notre misère. Ça voudrait dire que Dieu est prompt à nous juger dans sa colère. Il attend juste qu'on fasse une erreur pour nous envoyer des éclairs de colère sur nous. Surtout le Dieu de l'Ancien Testament. On va entendre ça souvent. Le Dieu de l'Ancien Testament est tellement dur, il est tellement en colère. Jésus, par contre, lui, dans le Nouveau Testament, il a dit justement qu'il était doux et humble de cœur. C'est toute une autre affaire. Puis c'est ce genre de fausse perception-là qu'on veut adresser ce matin. C'est des perceptions, qui sont assez répandues dans notre société. Puis je pense qu'elles sont peut-être aussi présentes dans notre Église. Vous allez dire, sur quoi tu te bases pour dire ça? Bien, en fait, c'est parce que je pense que c'est des perceptions qui sont assez présentes dans ma vie. Puis dans chacun d'entre nous, tout dépendant de nos circonstances qui changent. On est tenté par l'une ou l'autre de ces fausses perceptions, même si on est chrétien, même si on est croyant. Souvent, on est tenté d'être convaincu puis de voir Dieu comme un Dieu indifférent ou comme un Dieu cruel. Mais on va voir ce matin que contrairement à ces fausses perceptions de Dieu, on va voir que Dieu est tout autre de ce qu'on se l'imagine. On a besoin des lunettes de la parole de Dieu pour nous aider à voir ça, à voir Dieu différemment, comme Pasteur Normand disait il y a deux semaines. Le problème, ce n'est pas que Dieu est différent, mais le fait que nos circonstances, nos expériences passées et présentes affectent notre perception de Dieu. Au lieu de voir Dieu à travers les lunettes de notre expérience puis de nos circonstances, on a besoin de voir nos circonstances puis nos expériences à travers les lunettes de ce que Dieu dit être dans sa parole. C.S. Lewis, un auteur très populaire au 20e siècle en Angleterre, disait qu'il croit en Dieu comme il croit au soleil. Non pas parce qu'il le voit se lever, mais parce que quand il se lève, il voit tout le reste. Et c'était la lumière de cette perception de qui est Dieu, avec ces lunettes-là de ce que Dieu nous montre sur lui et sur le monde qu'on a besoin de voir nos vies, nos circonstances, nos expériences. C'est pas tout le monde hein, qui pense cela, qui pense qu'on a besoin de voir nos vies, nos circonstances, notre monde à la lumière de ce que Dieu dit être. En fait, j'aimerais qu'on puisse faire jouer une vidéo justement qui témoigne du fait que dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui pensent tout à fait le contraire. J'aimerais qu'on puisse partir la vidéo désormais.
Est-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Comme l'oiseau aux ailes brisées, je désespère, en manque de soins, en manque d'amour. Sur mes genoux ce soir, je récite une prière.
Ce Dieu auquel je ne crois pas, mais qui dit quelque chose d'essentiel sur l'humanité. Parce qu'au fond, si on a inventé un Dieu père et un Dieu d'amour, c'est qu'on sentait que l'amour est la valeur suprême, que sans amour on n'est rien du tout, comme dit la chanson, et je continue de penser que c'est vrai. Et c'est aussi parce qu'on expérimentait que l'amour le plus fort, le seul inconditionnel, le seul désintéressé en quelque chose, c'est l'amour parental.
C'était un extrait du film « L'heureux naufrage » qui a été produit et réalisé par Guillaume Tremblay. Peut-être que tu es comme la personne dans ce chant de Damien Robitaille, à te demander s'il y a quelqu'un pour t'aider à vivre ce matin. Quelqu'un que tu peux suivre. Quelqu'un pour prendre soin de toi, pour combler ce manque d'amour que tu ressens. Mais peut-être pas du tout. Regarde le philosophe André Comte-Sponville. Pour lui, ce quelqu'un, ce Dieu de paix et d'amour, n'existe pas vraiment à part dans notre imagination. Il a été inventé par les humains comme un mécanisme de survie. Ça serait dans ta tête que ça se passe. Dans ta tête que se passe ce besoin de paix, ce besoin d'amour, mais c'était tellement fort qu'il a fallu qu'on invente un Dieu plus grand que nous pour essayer de subvenir à ce besoin-là qu'on a. Une illusion, comme dirait Richard Dawkins dans son livre « Pour en finir avec Dieu ». Mais même quand on croit que Dieu existe réellement, comme un être à l'extérieur de nous, on peut penser qu'il n'est pas vraiment là pour nous aider à vivre. On peut chanter cette chanson de Damien Robitaille. Puis je vous dirais que, sans l'avoir littéralement chanté, je pourrais être un de ceux qui l'a chanté dans son cœur, de temps en temps. On peut penser qu'il n'est pas vraiment là pour nous aider à vivre. On peut arriver à voir Dieu comme indifférent et même cruel. Puis, j'aimerais nous mettre devant une première question face à ce constat-là, que même en tant que chrétien, de temps en temps, on peut, puis même pour certains, pendant une longue période de temps, arriver à cette fausse conception de Dieu-là. On peut se demander la question, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on finit par avoir ces fausses perceptions de Dieu? Puis, j'aimerais répondre un peu comme le philosophe le fait. Je crois qu'on projette sur Dieu nos dispositions et nos expériences. On projette sur Dieu nos propres dispositions. Lui, il disait, on veut la paix puis on veut l'amour. Fait qu'on a inventé un Dieu de paix puis un Dieu d'amour. Mais nous, dans notre expérience, quand on ne ressent pas cette paix et cet amour, quand on ne ressent pas que Dieu nous accompagne, quand on a plutôt l'impression qu'il est contre nous puis qu'il est cruel, on fait la même chose. On projette sur Dieu, on s'imagine que Dieu est ces choses-là, indifférent et cruel. Quand quelqu'un nous fait du mal, on a tendance à réagir d'une manière disproportionnée au mal qui nous est fait. De deux manières différentes, en fin de compte. On va faire comme si ça ne nous dérange pas. On va projeter à tout le monde que non, on est dur, ça ne nous dérange pas. Oui, tu nous as fait du mal, mais ça ne nous dérange pas. On est au-dessus de ça. On peut même minimiser puis banaliser le mal qui nous est fait. Nier sa réalité, non, c'est pas si grave que ça, ça ne m'a rien fait. Mais une autre manière de réagir, qui est aussi disproportionnée, c'est de faire comme si c'était la pire chose qui nous arrive. Comme si c'était la fin du monde. On va amplifier puis exagérer le mal qui nous est fait. Puis là, on va en vouloir à la personne, puis on va penser que le seul moyen de régler ça, c'est que cette personne-là soit punie. Mais quand c'est nous qui faisons du mal à quelqu'un, je vous dirais qu'on a tendance à faire la même chose, à exagérer d'une manière disproportionnée au mal que nous, on a fait à quelqu'un puis qu'on a fait subir. On va faire comme si ça ne nous dérange pas trop d'avoir fait du mal. On va minimiser, banaliser le mal que nous, on a fait, nier sa réalité. Finalement, c'était pas si pire, je t'exagère, t'es susceptible. T'sais. Ou, d'une autre manière, on va être tellement déprimé, tellement découragé, parce qu'on va agir comme si c'était la pire chose qu'on aurait faite, que quelqu'un aurait pu faire. Puis là, c'est nous qui va être écrasés par notre propre culpabilité. On va amplifier puis exagérer le mal que nous, on a fait comme si c'était la fin du monde. Comme si c'est irrémédiable, comme si Dieu ne peut pas rien faire avec ça. On est une cause perdue. Cette disposition-là que nous avons envers nous-mêmes puis envers les autres, cette manière d'agir-là qu'on a, on la projette sur Dieu, frères et sœurs, bien souvent. On s'imagine que Dieu est disposé comme ça envers nous. Comme si Dieu agit comme ça envers nous. Soit qu'il est indifférent à notre égard ou au mal que l'on subit ou que l'on fait subir aux autres. Ou soit qu'il attend juste de nous punir pour le mal qu'on a fait subir aux autres. Puis, il attend juste de punir les autres pour le mal ou de nous punir pour le mal que nous, on a fait subir aux autres. C'est l'équivalent de créer finalement un Dieu à notre image. Un peu comme André Comte Sponville le disait dans L'heureux naufrage. Comme d'inventer un Dieu qui sort de notre imagination au lieu de se baser sur ce que Dieu nous dit de lui-même dans sa parole. Mais on le fait sans s'en rendre compte. On croit que Dieu existe, mais on s'imagine qu'il est comme ceci ou comme cela, basé sur le fait que nous, on est comme ceci ou comme cela. On se donne donc l'autorité de dicter ce qu'est Dieu et comment il est, au lieu de se soumettre à ce que Dieu dit et révèle de lui-même. D'où nous vient donc cette tendance de faire cette projection? C'est ça la question à laquelle on est confronté en ce moment. Si Dieu existe et qu'il nous a créés, qu'il nous a placés dans ce monde, pourquoi ce n'est pas plus clair que ça de savoir qui il est et comment il agit? Pourquoi c'est si compliqué pour nous les humains? Mais en fait, la Bible dit que c'est clair. Dans la mesure où on est des êtres finis, hein, pas infinis, qui peuvent savoir quelque chose à propos d'un Dieu infini, on est quand même limité dans qu'est-ce qu'on peut, comment clair que ça peut être pour nous, parce qu'on n'est pas Dieu. Hein. Mais malgré ça, c'est quand même clair. Malgré notre finitude humaine, c'est quand même clair, nous dit la Bible. Même quand c'est clair, on persiste à refuser d'accepter ce que Dieu dit de lui et de nous. Nos propres dispositions, en fait, sont teintées par le péché dès notre naissance, à cause de la nature pécheresse qui est en nous. Vous savez, la Bible dit qu'on n'a pas été créé par Dieu avec une nature pécheresse à l'origine. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu avec une nature innocente, sans péché, sans corruption, sans mal. La création de Dieu était belle et bonne. J'ai dit bol et ben. C'est vraiment bon. Mais après la première désobéissance d'Adam et Ève, le mal et la corruption s'est répandu dans la création et principalement dans nos vies et par nos vies. On est les agents du mal. On le subit, mais on est aussi les agents du mal. Cette désobéissance s'appelle le péché, le fait d'avoir manqué la cible par rapport à ce que Dieu veut pour nous. On ne s'en rend même pas compte, mais on s'accommode du péché et on s'accommode au péché. C'est-à-dire que on apprend à vivre avec le péché, puis on apprend à se satisfaire du péché, de telle sorte qu'on obéit à tous ses ordres, à tous les commandements du péché, sans même qu'on s'en rende compte. De telle sorte qu'on ne se rend même pas compte que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour lequel on a été créé. La norme, ce n'est pas la corruption de la création. La norme, c'est ce que Dieu a créé avant que le péché détruise sa création. Mais c'est devenu pour nous, qui vit dans un monde pécheur, dans un monde déchu, le nouveau normal. On se satisfait du péché, puis on s'accommode du péché. J'ai une illustration justement pour parler de ça, comme en parlant de ça. J'ai pensé justement à mon expérience avec ma botte ici. En fait, quand je me suis blessé en snowboard, la première semaine, ça a pris quand même une semaine avant que j'aille faire une radiographie pour ma cheville. La première semaine, j'ai marché avec des béquilles les deux premières journées, après ça, avec une canne. Puis là, le reste de la semaine, j'avais pas de botte, mais je boitais, tu sais. Parce qu'il faut quand même continuer à vivre, tu sais. Il faut que j'aille manger, il faut que j'aille au bureau qui est au sous-sol, il faut que j'aille à la toilette, tu sais. On continuait à vivre. Mais là, j'avais vraiment mal à la cheville. Fait que j'ai trouvé une manière comme que je pouvais marcher comme ça, genre. Pendant une semaine de temps, j'ai marché de même. Puis là, finalement, j'étais allé voir le docteur, il a fait une radiographie, puis là, le docteur a dit, il faudrait que tu mettes une botte pendant 4 semaines parce qu'on pense qu'il y a un os qui est détaché de ton os, un petit morceau d'os qui est détaché. Fait que j'étais allé au chiro, puis j'avais pas ma botte. Puis mon chiro, il m'a pas vu rentrer, il m'a pas vu boiter, il est arrivé dans la salle, j'étais déjà assis sur le lit. Puis là, ben, tu sais, il m'a dit, tu sais, mets-toi sur le ventre. Fait que là, il commence à tâter, il est comme des mains magiques, mon chiro. Hein. Il commence à tâter ma colonne vertébrale. En 2 secondes, il dit, coudonc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis comme, comment ça? Il dit, bien, c'est vraiment comme bizarre, t'as plein d'affaires, c'est croche au bout. Là, j'ai dit, ah, il y a une semaine, je me suis fait mal, puis en snowboard, puis là, depuis ce temps-là, je boite. Puis là, j'ai commencé à porter une botte aussi, tu sais, puis la botte est comme débalancée, c'est pas la même hauteur, fait que je suis tout le temps comme en train de marcher de même, tu sais. Mais en fait, ça faisait déjà une semaine, puis j'avais déjà des conséquences dans ma colonne vertébrale. Mais une semaine après, quelqu'un qui ne m'avait pas vu avec ma botte encore m'a dit « Qu'est-ce que tu fais avec une botte? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Là, c'est comme « Ah, il m'est arrivé telle affaire. » Mais savez-vous quoi? Moi, ça faisait déjà comme quelques jours ou 1 ou 2 semaines, puis j'avais comme déjà oublié que je boitais. Déjà oublié que je marchais comme ça. C'était juste comme, il faut continuer à vivre. Fait que je vais trouver le moyen de continuer à faire mes affaires. Puis j'y pensais déjà plus que j'avais une blessure à la cheville puis que je portais une botte. Hey, en 1 semaine ou 2, je vivais ma vie comme si ça, c'était normal. C'est comme si c'était normal de boiter. Comme si c'était normal comme de marcher tout croche. Imaginez une vie entière à vivre comme si le péché, c'est juste normal, parce que c'est juste ça qu'on a connu. On est venu au monde avec une nature pécheresse. Les conséquences que ça peut avoir dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre manière de réagir avec Dieu, dans notre manière de réagir avec les autres. C'est pas surprenant qu'on a toutes sortes de fausses conceptions sur Dieu. Romains 1, 18 à 25 en parle longuement. Puis on n'aura pas le temps de lire au complet ce passage-là. Mais dans ce passage-là, ça commence en disant, dans le verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. » Ce que ce passage nous dit, c'est que nous la connaissons, la vérité sur Dieu. Dieu nous l'a fait connaître. On vient de lire. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. Mais Dieu est en colère contre notre injustice, parce que depuis notre enfance, depuis notre temps de jeunesse, depuis notre naissance, on passe notre temps à garder cette vérité-là qu'on connaît sur Dieu captive, à la refouler, à essayer de l'oublier, à essayer de la cacher. Au verset 20, on lit « Ils sont donc inexcusables ». tous les hommes qui retiennent la vérité prisonnière, qui la retiennent captive, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ont remplacé, au verset 23, la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. Au verset 25, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Tu vois, l'effet du péché sur nous et en nous est de nous faire voir le péché comme si ce n'était pas un péché. Fait qu'on vit notre vie depuis notre jeunesse. Puis à moins qu'il y ait quelqu'un qui nous parle de l'Évangile, à moins qu'il y ait quelqu'un qui nous ouvre les yeux sur la nature de notre péché, à moins qu'il nous ouvre les yeux sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on vit notre vie, c'est pas surprenant, avec le péché qui nous convainc que ce qu'on fait, c'est pas du péché. Puis on trouve ça juste normal, on est tellement habitué. Le pire, c'est qu'on connaît Dieu, on possède la vérité à son sujet, ce passage nous dit, mais on passe notre temps à la refouler, à l'étouffer, à la remplacer par le mensonge. Nous voilà donc avec des fausses perceptions de Dieu. Tour à tour, on expérimente, puis on fait expérimenter l'indifférence puis la cruauté dans notre monde et dans nos vies. Puis on se dit, alors, Dieu doit être indifférent. Puis Dieu doit être aussi cruel, parfois. Par contre, Dieu nous dit dans sa parole, « Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un être humain. » À certains égards, Dieu est comme nous, parce qu'on a été créé à son image. Mais Dieu dit, par rapport à ça, je ne le suis pas. Je n'agirai pas comme les humains agissent habituellement devant le mal. Je ne serai pas indifférent, dit Dieu. Je vais intervenir. Et quand je vais intervenir, je ne le ferai pas avec cruauté, contrairement à tout ce qu'on pourrait s'imaginer sur Dieu. Parce que moi, dit Dieu, je suis riche en miséricorde. Et ce matin, notre sujet, c'est justement ça. C'est pas ancré en Jésus, mais on veut s'ancrer en Jésus. C'est pas ancré en sa douceur, mais on veut s'ancrer dans la douceur de Jésus. Mais c'est ancré dans sa miséricorde. Le mot miséricorde, c'est quand même un vieux mot qui vient d'un mot latin, misericordia. C'est pas un mot comme qu'on entend si souvent que ça. Je ne sais pas si vous entendez ça comme plusieurs fois par jour ou par semaine, le mot miséricorde. Fait que ça vaut la peine de juste s'arrêter comme quelques secondes pour se demander, mais qu'est-ce qu'on veut dire par miséricorde? Ancré dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que Dieu est ni indifférent ni cruel, mais qu'il est miséricordieux? Bien, ça a à voir avec recevoir ou non la punition que l'on mérite pour des fautes ou des péchés que l'on a commis. Ou un autre sens de miséricorde, c'est la compassion, le souci que l'on a envers la misère d'un autre. Dans le dictionnaire, on définit miséricorde par pitié qui se manifeste par un acte de bonté. Puis là, je suis allé voir la définition de pitié dans Antidote. Ça dit « sentiment de sympathie qui rend sensible aux souffrances d'autrui et fait souhaiter qu'elles soient soulagées. » Puis je suis allé voir sympathie parce que ce n'était pas encore clair. Puis ça dit « partage de la douleur ». Une autre définition de pitié, c'est l'idée d'éprouver de la pitié, de la compassion pour quelqu'un. C'est comme un synonyme de la compassion, de la pitié, la compassion, la sympathie. Et dans Antidote, dans le dictionnaire, justement, il y a une autre définition à laquelle je suis arrivé, puis c'est la définition de la clémence, être clément, démontrer de la clémence envers quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? C'est la vertu qui consiste à pardonner les offenses, à atténuer les peines, les châtiments qu'on devrait infliger. Donc, on est dans une situation où quelqu'un mérite d'être puni, châtié, et la miséricorde, c'est d'avoir de la pitié pour cette personne-là qui est dans cette misère-là, qui est dans cette position difficile-là, jusqu'au point où on ne va pas le punir, mais on va pardonner son offense, puis ne pas lui donner ce qu'il mérite. C'est de ça qu'on parle, quand on parle de la miséricorde. Puis quand on va dans la Bible, on va voir, si vous utilisez différentes versions bibliques, que ce soit la Bible Second 21, la Bible du Sommeur, la Bible Darby en français, la Bible Louis II à la Colombe, j'en ai vérifié plusieurs, on utilise plusieurs mots français pour traduire différents mots hébreux ou grecs. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Puis, on utilise plusieurs mots pour traduire ces différents mots-là. Et ce sont comme des mots qui sont utilisés de manière interchangeable. C'est quasiment comme des synonymes. Fait qu'un de ces mots-là, par exemple, si on prend le psaume 136, il y a un refrain qui revient toujours dans le psaume 136 où on est appelé à louer Dieu. Pourquoi? Parce que son amour dure à toujours dans une des versions. Mais dans une autre version, c'est « car sa bonté dure éternellement ». Puis dans une autre version, c'est « car sa bienveillance dure à toujours ». Et encore une fois, « car sa miséricorde dure à toujours ». C'est tout le psaume 136, mais traduit de manière différente. Miséricorde, pitié, compassion, même le mot « grâce » et « bonté » sont utilisés de manière comme interchangeable pour traduire ce même concept-là. L'adjectif « miséricordieux » est traduit par quelqu'un qui est plein de grâce, plein de bonté, plein de compassion, même plein de tendresse dans un des versets, dans une des versions. Compatissant, c'est l'action d'avoir de la miséricorde pour quelqu'un, de pardonner, de faire grâce, d'être clément. Donc, dans le reste de ce message, je vais utiliser ces expressions-là de manière comme interchangeable, moi aussi. Les textes bibliques qu'on va consulter, bon, aussi, on les utilise, comme vous allez voir, comme des synonymes. Mais ce dont parle la miséricorde ici, ce dont on parle, on va voir que c'est quelque chose qui nous amène à voir que Dieu n'est pas indifférent. Il a pitié de notre misère. Puis on va voir aussi que Dieu n'est pas cruel. Il est un puits sans fond de miséricorde. Il est riche en miséricorde. Un puits sans fond de miséricorde. Une fontaine, on pourrait dire, de miséricorde. Donc, premièrement, Dieu n'est pas indifférent. Il a pitié de notre misère. Dans Osée, chapitre 11, verset 8, on lit justement un texte où Dieu parle de son peuple, qu'il appelle Éphraïm ou Israël. Osée, chapitre 11, verset 8. Puis ça nous montre que Dieu, justement, n'est pas indifférent, mais il a pitié de notre misère. À partir du verset 7, on lit « Mon peuple, c'est Dieu qui parle, est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? » Éphraïm, ici, c'est le nom du peuple de Dieu. « Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? » Encore une fois, Israël, Éphraïm, c'est fait référence au peuple de Dieu. « Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? » Adma, Tseboïm, c'est deux noms de villes qui avaient été détruites par le feu et le soufre lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits par Dieu. C'était des villes qui entouraient cette région-là et qui ont été totalement détruites et anéanties. Donc, dois-je te traiter comme ces villes? Et Dieu qui continue, « Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. » Son cœur est bouleversé. Son cœur est changé à propos de son peuple qu'il doit juger dans sa justice. Son peuple s'est rebellé. Son peuple est enclin à s'éloigner de lui. Il les appelle, mais aucun d'eux ne se lève. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, à cause de sa justice, devrait les juger, devrait les punir, devrait leur donner ce qu'ils méritent. Mais Dieu déclare, « Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. » Dans Jérémie 31, verset 20, on lit un passage similaire. Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 20. Et les premiers presque 30 chapitres, 29 chapitres de Jérémie, c'est vraiment une série de condamnations, puis d'annonces, de prophéties, de destruction sur le peuple de Dieu et sur les ennemis du peuple de Dieu. Parce qu'ils se sont rebellés, parce qu'ils se sont éloignés, parce qu'ils ont désobéi. Et Dieu doit les châtier à cause de sa justice. Mais à partir du chapitre 30, on a une série de chapitres de consolation où Dieu dit, non, ce n'est pas ça le mot final. Ce n'est pas ça le dernier mot. Et au verset 31 de Jérémie, au verset 20, on lit un passage, un verset très similaire. Encore une fois, le nom du peuple de Dieu ici est Éphraïm. Au verset 20, ça dit « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi. » Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les versets précédents, Dieu a parlé contre son peuple. l'a repris parce que le peuple lui désobéissait et Dieu a parlé contre lui en disant, si vous persévérez dans la désobéissance, je vais venir puis je vais vous châtier puis je vais vous détruire. Mais voilà qu'au verset 20, il dit, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi. Chaque fois que Dieu pense puis parle contre Éphraïm, il y a un souvenir qui vient et dit, je ne peux pas faire ça à mon peuple, mon peuple chéri, c'est mon fils. Et donc Dieu continue au verset 20, c'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Dieu est profondément bouleversé pour son peuple, qui revient à lui dans la confession de ses fautes, prêt à s'en détourner. Parce que juste un petit peu plus tôt, dans le verset, ça dit, dans le chapitre 31, au verset 18, « J'entends clairement Éphraïm se lamenter parce qu'ils sont sous la condamnation de Dieu, puis sous la menace de la destruction, et ils l'ont vécu parce que Dieu les a exilés de leur pays. » De la terre promise. Et Éphraïm dit, tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger. Pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Dieu, devant la confession de ses fautes, est prêt à s'en détourner. Et il est tout bouleversé. Dieu ressent beaucoup de compassion, de pitié pour son peuple. Même dans le Nouveau Testament, dans Jacques, chapitre 5, verset 11, Jacques nous dit, « Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. » Job, pasteur Roman nous en a parlé il y a 2 semaines, a vécu des choses tellement difficiles, mais l'histoire s'est bien terminée pour lui. Pourquoi? Car Jacques nous dit, « Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Dans Luc chapitre 6, verset 36, Jésus nous encourage dans le sermon sur la montagne à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à aimer nos ennemis et à leur faire du bien et même prier pour eux et chercher leur bénédiction, à les bénir. Au verset 36 de Luc chapitre 6, Jésus va dire, « Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, en parlant de Dieu. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, on voit que Dieu est riche en miséricorde, est une fontaine de miséricorde, de compassion, de pitié pour son peuple qui se repent. Mais même en tant que chrétien, on projette bien souvent sur Dieu l'indifférence que nous expérimentons de la part des autres et que nous on fait expérimenter sur les autres. Mais Dieu, au contraire, nous dit dans sa parole qu'il est plein de compassion, rempli de bonté et de tendresse. Ne voyons pas Dieu comme on se voit nous-mêmes ou qu'on a tendance à voir les autres. Dieu n'est pas indifférent. Il se soucie de notre misère, pardon. Même quand nous, on est la source de notre propre misère, Dieu intervient. Et quand il le fait, il n'est pas cruel. Justement, c'est la deuxième fausse conception, Dieu n'est pas indifférent, mais Dieu n'est pas non plus cruel quand il choisit d'intervenir. Il n'intervient pas seulement pour nous punir, comme s'il prenait plaisir à nous punir et nous châtier. Non, justement, dans Osée, on retourne dans ces deux passages-là de l'Ancien Testament. Hein, si on les continue à lire, on avait lu Osée 11, chapitre 11, verset 7. Mais si on continue la lecture, hein, Dieu il dit « Je suis rempli de compassion » à la fin du verset 7. Et à la fin du verset 8. Et il dit, « Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. » Ce que Dieu dit ici, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Nous, on a tendance à voir Dieu comme nous, on agirait naturellement à cause qu'on est animé par le péché, à agir avec vengeance, agir avec colère, à vouloir faire payer les autres. Mais Dieu dit, je ne suis pas un homme parce que je suis Dieu et que je ne suis pas un homme. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Vraiment intéressant que Dieu est en train de dire, Moi, je ne suis pas un homme. Vous, là, ça serait votre tendance à vous punir puis à vous haïr dans un cycle sans fin. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, il y a un terme à ma colère. Ce n'est pas comme ça que je veux agir avec vous lorsque vous vous confessez vos fautes et que vous revenez à moi. Encore une fois, dans Jérémie 31, au verset 34, on voit le même genre, un petit peu plus loin dans le chapitre 31, Dieu qui dit « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà la disposition de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu cruel qui n'attend juste de nous punir quand on pêche. C'est un Dieu dans sa nouvelle alliance qu'il fait en Jésus, parce que ce verset-là est repris dans Hébreux chapitre 8, puis on comprend que cette nouvelle alliance-là dont Dieu parle dans Jérémie 31, elle est mise en action dans la personne de Jésus-Christ par sa mort à la croix. Dieu dit « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça me fait penser à un autre passage qui redit la même chose dans Ésaïe chapitre 55, les versets 6 à 9, où Dieu réitère « Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un être humain comme vous, qui est livré à son péché, puis livré à sa haine toujours, puis qui ne peut pas s'en empêcher, puis s'en sortir. » Dans Ésaïe chapitre 55, le prophète Ésaïe parle au verset 6 de Dieu en disant « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. » Donc évidemment, Dieu n'est pas en train de dire « Faites ce que vous voulez puis je m'en fous. » Tu sais. Non, il y a une exhortation ici à abandonner notre voie si on est dans la méchanceté. Puis que l'homme injuste abandonne ses pensées injustes. Qu'il retourne à l'Éternel, au verset 7. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Lorsqu'on retourne à l'Éternel, lorsqu'on retourne à notre Dieu, il nous dit qu'il va avoir compassion de nous. Il nous dit qu'il va nous pardonner, pas juste nous pardonner une fois, mais abondamment. Et encore une fois, au verset 8, on dit « En effet, mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Vous, dans vos pensées humaines, dans vos voix humaines, vous dites « On va rendre le mal pour le mal, on va se venger parce qu'il faut faire quelque chose. » Mais les pensées de Dieu, les voix de Dieu sont bien plus hautes que nos pensées et nos voix. Comme le ciel est bien plus élevé de la terre, Dieu dit non, moi je veux avoir de la compassion. Moi je veux pardonner abondamment. Dane Ortlund, qui est l'auteur du livre « Doux et humble » sur lequel on a basé un peu toute la série de Libération 21 cette année, dit justement que le cœur de Dieu, empreint de compassion, confond nos prédilections intuitives quant au plaisir qu'il prendrait à répondre à ses enfants s'il déposait à ses pieds les ruines et le chaos de leur vie. Dieu n'est pas comme vous, dit-il. Même l'amour humain le plus intense n'est qu'un pâle reflet de l'abondance émanant des cieux. À la page 171. Je trouve ça tellement vrai que Dieu n'est pas comme nous. Je vous donne un exemple. Quand un de mes enfants vient me voir avec un jouet brisé pour la 10e fois pour que je le répare, ma réaction, c'est « Pas encore! Tabarouette! Ça se peut pas! Encore une fois! Pourquoi tu ne fais pas attention à tes affaires? » Je vous donne un exemple concret de ça. Ma fille Frédérique, qui est assise juste là dans la première rangée, a une toile dans sa chambre à coucher qui sur la fenêtre avec une chaînette pour faire descendre la toile. Puis je pense qu'il y a comme un stopper qui était supposé d'être sur la chaînette, mais il est disparu. Puis si on tire sur la chaînette, sur la toile pour la descendre, puis qu'on la tire trop fort, puis qu'on n'arrête pas de la tirer, comme elle a tendance à faire bien souvent, ce qui arrive, c'est que la chaîne, elle se défait, puis là, elle s'enlève de la raille qui fait tourner le mécanisme. Hey, combien de fois dans les derniers 2 ans, elle est venue me voir, « Papa, je suis pas capable de remonter ma toile. Pourquoi? Ben parce que là, elle me montre la chaîne, tu sais, et dans sa main. Je suis comme, pourquoi tu tires trop dessus? Arrête de trop tirer dessus. Là, je vais la voir. Regarde, c'est pas compliqué. Là, je vais installer la chaîne. Regarde, tu fais ça de même. Là, je la fais marcher. Là, ça marche. Là, faut pas que tu tires plus que ça. Faut que t'arrêtes rendu là. Là, t'arrêtes. Jusqu'au jour où elle revient avec la chaîne dans sa main. Ah, excuse, ma toile, je suis pas capable de la remonter. Moi, je suis comme, puis elle est juste là, puis elle sait exactement de quoi je parle. Hein, Frédéric? Mais Dieu ne réagit jamais comme ça envers moi. Puis Frédéric, tu sais, la seule chose que je peux faire, c'est te demander pardon de moi-même réagir comme ça envers toi. Parce que c'est pas ce que je reçois de Dieu. Puis à chaque fois que je réagis pas comme ça, comme Dieu agit envers moi, je suis en train de penser puis de tomber dans la tentation que Dieu est encore une fois tanné puis fâché de me pardonner. En se disant, il va-tu comprendre un jour cet enfant-là? Mais Dieu ne dit jamais ça à propos d'Alex Farley. Puis Dieu ne dit jamais ça de chacun d'entre vous. Si seulement la prochaine fois que ça arrive, je pouvais simplement dire, ah, c'est brisé encore? OK, je vais aller la remettre en place. Puis être joyeux de pouvoir encore une fois aider ma petite fille. Parce que c'est ça que Dieu fait avec nous. Il est joyeux de réparer notre chaos, puis notre mess, puis nos jouets brisés, puis nos vies brisées, puis nos relations brisées. Il est prêt à nous pardonner abondamment, puis à oublier nos fautes, à ne pas en tenir compte. Peut-être tu dis que c'est trop beau pour être vrai tout ça. Tu dis, avec tout le mal que j'ai commis, que je continue de faire, il doit y avoir une limite à la miséricorde. La grâce et la bonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa miséricorde est sans limite. Elle est illimitée. Dans Éphésiens 2, chapitre 1 à 10, nous lisons dans le verset 4, c'est tout un passage que je ne prendrai pas le temps de lire, mais nous lisons comment dans les versets 1 à 3, nous avons été rebelles envers Dieu, ennemis de Dieu, et que nous sommes morts spirituellement. Mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais au verset 4, on lit « Dieu qui est riche en compassion ou en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » Dieu, il ne calcule pas la miséricorde qu'il donne. Savez-vous ce que Jésus fait de ceux qui gaspillent sa miséricorde, dit Dan Ortlund? Il redouble de miséricorde. Dieu est riche en miséricorde, c'est justement ça l'idée. Sa miséricorde n'est ni calculée ni prudente, dit Ortlund, comme l'est la nôtre. Elle est non restreinte, elle est abondante, enveloppante, magnanime. Cela veut dire que notre honte obsessante ne constitue pas un problème pour lui, mais la chose même avec laquelle il se plaît à œuvrer. C'est quand on a honte de nos fautes et de nos péchés que Dieu dit, « Ah, enfin, je peux lui démontrer la miséricorde. » C'est une image, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont en Jésus par la foi, il n'y a plus de condamnation. La colère de Dieu contre notre péché que nous méritions, qui tombe, celle qu'on méritait qui tombe sur nous, est tombée sur Jésus. Jésus, par sa mort à la croix, a satisfait la colère de Dieu. En sorte qu'il ne sera, la colère de Dieu ne sera jamais plus dirigée vers nous qui sommes en Jésus. C'est pour ça que si nous voulons être ancrés dans sa miséricorde, nous devons nous ancrer en Jésus et dans son œuvre à la croix. Il n'y a aucune autre solution pour nous, frères et sœurs. Il y a un auteur qui dit quelque chose de vraiment intéressant. Il est 11h10, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire, mais Je pense que je vais le lire parce que c'est vraiment, vraiment puissant. À chaque fois que je lis ça, je pleure. Et peut-être que je ne devrais pas le lire parce que ça se peut que je pleure. Mais Milton Vincent, il a écrit un livre qui s'appelle « Gospel Primer for Christians » en anglais seulement, mais j'ai eu la traduction, une traduction française. Il nous donne comme un rappel de l'Évangile. Puis lui, il croit dur comme fer, puis je suis rendu que je crois ça moi aussi, que c'est important pour nous de se rappeler l'Évangile régulièrement, de se le répéter. Et lui, il dit « rehearse the gospel », c'est-à-dire se le rappeler en le lisant. Puis il y en a fait une version du message de l'Évangile, si on veut, de l'histoire de la rédemption, en quelques paragraphes. Puis dans une section de ces paragraphes-là, je pense que c'est la section qui me touche le plus. J'aimerais vous la lire. À propos de cette vérité de l'absence de la colère de Dieu sur moi, qui est en Jésus. Ça dit, « En me sauvant, Dieu m'a aussi justifié, me rendant juste par son propre décret, me déclarant innocent de tout mon péché et mettant fin à sa colère contre moi. Cette colère, le Christ l'a pleinement apaisée sur l'arbre, quand, portant mon péché, il l'a enduré pour moi. Ainsi maintenant, Dieu n'entretient avec moi que des rapports de grâce. L'ancienne colère est bannie sans laisser de traces. À chaque jour, je suis fait un peu plus comme je dois l'être. Sa grâce, utilisant toutes choses pour me rendre bon. Oui, même dans les épreuves, la grâce de Dieu abonde aussi et me fait le bien qu'il lui assigne. Et quand je pêche, la grâce de Dieu abonde, assurant que mon statut justifié est saint. Aucune colère ne s'éveille en Dieu à cause de mon péché. Car le Christ l'a apaisé, pour le dire encore. Le cœur de Dieu ne palpite que par une grâce passionnée qui veut jalousement que je revienne dans son étreinte. Dieu n'exige même pas que je me confesse avant de vouloir presser son pardon. Le pardon est dans son cœur depuis le début. Et quand je m'approche de lui pour réparer mon erreur, il court pour me saluer et s'approche de moi, m'embrassant et me baisant, prêt à me libérer. Dieu voit mes péchés et il en est affligé, car quand je pêche, je ne connais pas son amour comme je devrais le connaître. J'aimerais inviter l'équipe de louange, parce que pour conclure, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble ce matin, un exercice qu'on va faire ensemble, moi et vous. J'aimerais qu'on puisse lire le psaume 136 ensemble, à haute voix, tous ensemble. Le psaume 136 est bâti comme ceci. Chaque verset est composé de deux parties. Une première partie qui nous invite à louer Dieu pour quelque chose de spécifique que Dieu est ou fait pour nous. Puis la deuxième partie, c'est une réponse que l'Assemblée est supposée de répondre. C'est comme ça qu'a été bâti pour le peuple d'Israël. Puis j'aimerais qu'on puisse faire ça ensemble. Pour chaque verset qu'on va lire, je vais lire la première partie et j'aimerais que vous répétiez tous ensemble d'une seule voix, car sa miséricorde dure à toujours. Mais quand vous dites car sa miséricorde dure à toujours, je vous demande de vous souvenir de cette miséricorde manifestée par Jésus à la croix, sur qui la colère de Dieu a tombé, pour qu'il n'y en ait plus une seule goutte qui est dirigée sur nous. Vous êtes prêtes? Psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer Rouge. Qui fait passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa de grands rois, qui tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Bassan, et donna leur pays en héritage à Israël, son serviteur. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. C'était l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais j'espère que vous pouvez voir que c'est la même histoire avec chacun d'entre nous. L'ennemi, ce n'était pas Og ou Bassan ou quoi que ce soit. L'ennemi, c'était le péché qui pesait sur nous. Et Jésus est allé à la croix pour que nous puissions vivre et expérimenter. Pas un Dieu indifférent ou un Dieu cruel, mais un Dieu dont la miséricorde durera toujours. Amen. Thank you.